Je vais à présent lire les textes de la prédication. Alors le premier texte, il se trouve dans Matthieu, chapitre 7, les versets 1 à 5. C'est Jésus qui parle dans le sermon sur la montagne. Et là, il dit ceci. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et ensuite, nous passons à 1 Jean, chapitre 3, verset 15, donc juste avant l'Apocalypse, avant Jude, chapitre 3, verset 15. Quiconque hait son frère, donc du verbe haïr, quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et finalement, nous nous allons dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, au chapitre 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Bonjour à chacun, c'est un plaisir de se retrouver. Et ce matin, comme tout à nouveau, nous avons besoin de l'éclairage du Saint-Esprit pour comprendre sa parole, pour adorer notre Dieu, pour saisir la vérité qu'il veut nous enseigner. Et je dois vous avouer, vous dire tout de suite que ce matin, je ne viens pas vous parler en tant que spécialiste, mais en fait que je suis comme vous, dépendant de Dieu, de sa parole, à l'écoute de cette parole. Et j'ai l'impression parfois que Dieu demande d'enseigner les choses aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc nous allons ce matin nous pencher sur ce thème de l'artisan de paix que nous avons commencé ensemble le 16 février 2014. Ça fait déjà maintenant un certain temps et que nous avons d'ailleurs continué au mois de septembre dernier. Et vous vous souvenez sûrement, peut-être, ou sinon nous le rappelons maintenant avec force, que la paix que nous pouvons avoir ne vient pas de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas trouver de la paix en nous-mêmes. La paix en fait vient de Dieu. De Dieu, et nous avions particulièrement insisté sur l'importance de la source, la motivation, l'origine, la force, la récompense de cette recherche de la paix qui se trouve en fait dans la rédemption de Jésus-Christ, dans l'évangile de Jésus-Christ. Donc c'est un petit peu notre... Vous vous souvenez, on utilise des lettres pour se souvenir, hein, et là c'est la lettre R, on pourrait dire la lettre R de base, c'est la rédemption en Jésus-Christ qui est notre motivation. Au travers de la rédemption, Dieu nous donne aussi bien le modèle que la motivation pour être des artisans de paix. C'est la base, le fondement, la source de toute activité de l'artisan de paix. L'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, ou l'évangile si vous voulez. Et nous avions vu ensemble, dans la manière de vivre de cet artisan, quatre étapes. Et ces quatre étapes étaient rappelées par justement la lettre R. La première étape, peut-être vous souvenez-vous, nous en avons parlé tout un culte au mois de septembre, c'est rendre gloire à Dieu. Un premier réflexe que nous pouvons avoir dans notre vie, hein, parce que nous sommes éblouis par la grâce sans égale de Dieu qui nous justifie en Jésus-Christ. Et qui nous éloigne et écarte de nos vains désirs de vivre de façon égoïste. On l'a développé ensemble en nous basant sur un verset, peut-être vous souvenez-vous de 1 Corinthiens 10:31. Oula, il faut un petit peu se souvenir, hein. C'est toujours bon d'avoir ces paroles qui nous reviennent, hein, qui nous disent « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors si vous ne vous souvenez pas du verset, peut-être vous souvenez de l'iPad. iPad, c'est-à-dire PAD, plaire à Dieu, je plais à Dieu. Hein, cette notion de se rappeler à chaque instant, est-ce que je plais à Dieu maintenant, là, dans la situation dans laquelle Dieu m'a placé. La deuxième étape, Le deuxième R que nous avions introduit, c'est retirer la poutre de notre œil. En fait, lorsque nous réalisons la miséricorde de Dieu qu'il accorde à ceux qui confessent leurs péchés, en fait, notre justice est balayée et nous admettons nos fautes parce que Dieu nous pardonne. C'est ce que nous allons développer d'ailleurs aujourd'hui dans cette prédication. La troisième étape, puisqu'on revoit les quatre étapes, c'est de redresser dans la douceur, qui était basée sur le texte de Galates 6, 1a. Hein, quand nous acceptons et bénéficions de l'Évangile, ce que nous désirons, c'est que celui qui est en face de nous, notre offenseur, puisse aussi bénéficier de l'Évangile. Et donc nous sommes inclinés à corriger, restaurer avec douceur ceux qui ont mal agi. Et la quatrième étape, c'est encore un R, c'est rechercher la réconciliation. Et en fait, nous recherchons la réconciliation en nous réjouissant du pardon libérateur de Dieu et en recherchant à vivre de façon continuelle dans la réconciliation avec notre Dieu et les uns avec les autres, qui est une manifestation de l'Évangile. Voilà, donc on a de nouveau un petit peu ces quatre étapes, hein. Rendre gloire à Dieu, retirer sa poutre, redresser avec douceur et rechercher la réconciliation. Ayant maintenant un petit peu cette vue d'ensemble remise à notre mémoire, eh bien entrons dans cette deuxième étape de retirer la poutre. Et ce verset qui va nous accompagner durant cette matinée, c'est ce verset de Matthieu 7,5. Qui commence de manière assez forte d'ailleurs, hein, avec un terme qui nous marque, hein, hypocrite. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment enlever la paille dans l'œil de ton frère. En fait, Jésus utilise ici une image exagérée, une hyperbole pour attirer notre attention. Hein, une personne qui a une poutre dans son œil, c'est quelque chose d'assez étonnant. Avez-vous déjà vu une personne avec une poutre dans un œil? Peut-être pas, mais nous comprenons que avoir une poutre dans son œil, en fait, bouche les deux yeux. Tout simplement. Est-ce qu'une personne qui a une poutre dans son œil peut voir quelque chose? Non. En fait, il serait totalement hypocrite de dire que l'on voit quelque chose avec une poutre dans un œil. Et il serait hypocrite de dire qu'en étant aveugle, on arrive à enlever la paille de l'œil de son frère. Alors, si vous voulez essayer, fermez les yeux et essayez simplement d'atteindre l'œil de votre frère. Vous pouvez faire l'exercice aujourd'hui. D'ailleurs, déjà, quand on voit, c'est pas facile d'enlever la paille de l'œil de son frère. Cela veut dire qu'il ne faut pas enlever la paille de l'œil de son frère. Est-ce que ce texte nous enseigne ça? Eh bien, en lisant attentivement ce texte, il n'est pas question d'interdire cette action, qui peut être salutaire. Mais elle est faite en prenant premièrement sa responsabilité concernant notre péché. Car la possibilité de résoudre notre péché est bien plus grande que celle de résoudre le péché de l'autre. En fait, le péché qui est présenté dans notre vie peut être résolu par la repentance et la foi que nous vivons. Le péché que l'autre vit dans sa vie, eh bien c'est par la repentance et la foi également, mais de cette personne, nous ne pouvons pas nous repentir pour l'autre. Donc en fait, la possibilité de se repentir pour le péché que Dieu nous montre dans notre vie est grande comme une poutre. Et la possibilité de la repentance pour la vie de l'autre, pour nous, est petite comme une paille. Et comme la dernière fois, j'aimerais vous lire une illustration un peu plus conséquente pour que nous puissions mieux saisir cette notion un petit peu dans des aspects pratiques de ce qui se passe, une histoire vécue, qui permet de comprendre qu'est-ce que c'est que d'enlever sa poutre. Et cette fois-ci, nous sommes dans un cadre ecclésial, dans une église. Dans une église où un pasteur assistant qui s'appelle Marc, en fait, voulait devenir le pasteur principal suite au départ du pasteur principal. Voici ce qui s'y passe. Enfin, il avait eu sa chance. Serrant bien fort sa déclaration dans ses mains, Marc s'assit au premier rang de l'église, prêt à en découdre avec les anciens. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. 6 mois auparavant, ils avaient refusé d'appuyer sa nomination comme pasteur principal. Et ils étaient restés là sans rien faire lorsque Marc s'était fait calomnier dans une assemblée générale. Le pire de tout, c'est que certains ont parlé derrière son dos, émettant des doutes quant à sa capacité de remplacer le pasteur qui partait à sa retraite. Après des mois de tension de plus en plus fortes, les anciens avaient finalement fait appel à une délégation de conciliateurs qui était formée pour la réconciliation en Église. Pendant deux visites de 3 jours, chacune, les conseillers ont enseigné à toute l'assemblée comment rechercher la paix. Ils ont suscité des discussions personnelles et encouragé Marc et les anciens à être des modèles pour l'Église en reconnaissant chacun ses torts dans le conflit. Mais Marc n'arrivait pas à changer sa manière de penser. Les péchés répétés des anciens étaient plus graves que ces quelques erreurs. À quelques jours de la deuxième série de week-ends pour l'Assemblée, les anciens étaient sur le point de confesser publiquement la faute ou leur faute à l'Assemblée. La déclaration qu'ils avaient préparée n'allait pas aussi loin que Marc et sa femme espéraient. Alors ils planifièrent de démontrer publiquement les péchés des anciens à leur égard. Quand la réunion commença, l'un des médiateurs prêcha sur la réconciliation et expliqua le but et le déroulement prévu de cette réunion. Il donna ensuite la parole au porte-parole des anciens, lisant une déclaration préparée d'avance. Il confessa différents actes qui avaient fait du tort au pasteur Marc. Puis il se tourna vers Marc et Donna en leur disant « Nous avons péché contre vous et nous vous avons fait du tort. Nous sommes vraiment désolés. » Et il était évident, d'après les larmes qui coulaient sur son visage et sa voix tremblante, qu'il parlait de tout son cœur. Puis d'autres anciens prirent la parole, confessant leurs propres péchés, demandant pardon au pasteur, à l'assemblée. Un troisième ancien fit de même, et il était prévu que seuls 2 ou 3 anciens parlent, alors qu'en fait tous les anciens sont venus ajouter leur confession personnelle à la déclaration qui avait été faite. Marc, à ce moment-là, luttait dans ses pensées. Il était en fait toujours en colère et blessé, mais les paroles des anciens avaient creusé une brèche dans le mur qu'il avait construit dans son cœur. Son épouse vit qu'il avait besoin d'un moment pour se remettre ses idées en place, alors elle se leva et s'approcha du micro. Et se tournant vers les anciens, Donna, l'épouse de Marc, dit « J'étais venu ce soir pour dire à tout le monde combien vous nous aviez blessés. Mais maintenant, Dieu m'a montré combien j'avais tort. J'ai finalement compris que le Seigneur voulait me dire ce que le Seigneur voulait me dire dans 1 Jean 3,15. En m'accrochant à ma haine, je vous ai assassiné dans mon cœur pendant plusieurs mois. Je suis plus coupable que vous ne l'êtes. Je vous pardonne et vous demande de me pardonner. » Et en revenant à sa place, on pouvait voir sur son visage la liberté qu'elle ressentait. Son amertume avait été balayée. Or les pieds de Marc étaient comme mous quand il se leva et s'avança vers le micro. La bataille dans son cœur est arrivée à son apogée. Il pouvait s'accrocher à sa colère et prendre sa revanche, où il pouvait avoir la liberté en pardonnant et en confessant ses propres fautes. Et avec une grande émotion, il réalisa qu'il ne pouvait pas faire les deux. « Aide-moi, Seigneur, » pria-t-il silencieusement, alors qu'il s'approchait du micro, et soudain, ses mains s'ouvrirent et ses notes tombèrent à terre. Se tournant pour faire face aux anciens, il parla comme il n'avait jamais prévu de le faire ce soir-là. « Donna a tort. Je suis la personne la plus coupable dans tout cela. En tant que pasteur associé, j'aurais dû montrer un exemple d'humilité et de soumission. J'aurais dû avoir confiance en Dieu qui œuvre par les anciens et l'Église pour le choix du nouveau pasteur pour cette Église. Mais au lieu de cela, j'ai laissé mon désir d'occuper cette place prendre le dessus. Et j'ai choisi de le faire à ma manière. Je me suis élevé, je me suis mis sur la défensive lorsque certains ont mis en doute mes capacités. J'étais en colère que des gens parlent derrière mon dos, mais j'ai fait exactement la même chose. Au lieu d'aller voir ceux qui avaient parlé contre moi, je les ai évités et je me suis enfermé dans l'amertume. Même quand certains m'ont demandé pardon, j'ai refusé de l'accorder. J'ai misérablement échoué dans mon rôle de pasteur. Et le pire, c'est que j'ai entraîné Donna, ma femme, dans mon amertume. Je demande pardon à Dieu et j'espère qu'il vous donnera la grâce de me pardonner. » Les anciens se sont levés d'un seul coup pour embrasser Marc. Ils sont aussi allés chercher Donna et après quelques instants, une autre voix se fit entendre derrière eux. Des micros avaient été placés au devant de l'assemblée et un homme âgé se leva devant eux, voulant aussi partager sa faute. Avant qu'il n'eût fini de parler, une femme se tenait déjà devant l'autre micro, poussée par le Saint-Esprit à trouver la paix par la confession. Puis un autre et un autre confessèrent leurs péchés, leurs calomnies, leur esprit de division et la dureté de leur cœur. Après 45 minutes de confession, le silence tomba sur l'assemblée. Et un des médiateurs termina par la prière, et lorsqu'il finit, il suggéra à chacun de se tourner vers son voisin, qui confessait la foi en Christ et se repentait de ses péchés, en disant « Le Seigneur t'a pardonné de tous tes péchés ». Et les gens se partagèrent cette bonne nouvelle, se prirent dans les bras et parlèrent si longtemps que les médiateurs durent s'en aller discrètement. Ils savaient que ces gens étaient entre de bonnes mains, les mains de Dieu. Voilà cette histoire qui s'est déroulée et qui nous enseigne tant de choses. Et le premier point que j'aimerais souligner, c'est qu'est-ce qui nous motive à ôter la poutre de notre œil? Qu'est-ce qui pourrait bien nous motiver à enlever cette poutre? Eh bien, lorsque nous réalisons que Dieu fait miséricorde à celui qui se repent, eh bien, plus rien ne nous arrête d'avouer, même les fautes que nous pensons être les plus minimes. Nous avons lu dans Matthieu 7, verset 2, « C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Si la mesure que vous utilisez pour juger vos actions, c'est de vous auto-justifier, comment pouvez-vous demander à votre offenseur de ne pas faire de même ? Si par votre jugement vous dites que l'autre a totalement tort, ou du moins plus que vous, pourquoi ne ferait-il pas de même? Pourquoi Dieu ne ferait-il pas de même? C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Notre motivation à ôter la poutre de notre œil ne vient pas de ce que l'on peut gagner. Cela vient de ce que l'on a reçu. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous ne confessons pas nos péchés pour gagner quelque chose. Nous confessons nos péchés parce que nous avons reçu cette grâce de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau dans la famille de Dieu, nous avons reçu des promesses tout simplement extraordinaires. Jésus a tout payé, tout. Et nous n'avons aucune crainte d'avouer un péché à Dieu. Christ a déjà payé.
C'est vrai. Comme vous, je suis honteux quand je vais vers Dieu et lui avouer une faute. C'est vrai. Car en tant qu'enfant du Saint des Saints, on ne peut pas prendre le péché à la légère. Mais Christ a payé. Il a pris la condamnation qui pesait sur nous. Tout est totalement et entièrement payé. Ma honte n'est pas un prix que je paye pour être pardonné. C'est uniquement une conséquence de ce péché. Une conséquence lorsque nous trouvons devant un Dieu saint, c'est normal que nous ayons honte. Mais ce n'est pas un prix à payer. Christ a payé ce prix. Notre motivation à enlever la poutre de notre œil vient de l'évangile de Jésus-Christ, qui atteste que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Et pourquoi, en fait, l'argument du pardon est-il la fidélité et la justice de Dieu? Dans ce texte de 1 Jean 1,9, il n'est pas question de miséricorde ou d'amour. Confessez vos péchés, car il est plein d'amour et de miséricorde. Non, il est dit, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Simplement parce que Christ a déjà payé, et Dieu est juste et ne fera pas payer une deuxième fois. Si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner. Et Dieu est fidèle lorsqu'il dit qu'il nous a sauvés, comme il le dit dans Tite 3, 4 à 7, que je vous invite à aller méditer cet après-midi.
un texte merveilleux sur l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Et quand Dieu dit que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, il est fidèle à sa parole. Nous allons donc vivre cette étape d'enlever la poutre de notre œil parce que nous réalisons que Dieu fait miséricorde, il fait grâce, il restaure, il renouvelle, il accorde son pardon à celui qui confesse son péché. Et si ce matin vous ne connaissez pas ce pardon, vous n'avez jamais vécu ce pardon de Dieu, vous n'avez jamais saisi ce pardon de Dieu en Jésus-Christ, venez simplement à Dieu, confessez vos péchés en Jésus-Christ. Repentez-vous et croyez en Christ qui a payé la dette. Et non seulement nous le ferons une fois dans notre vie, mais cela deviendra une habitude de vie dans ce monde ici-bas, alors que nous sommes encore dans un monde déchu et que nous sommes encore atteints, touchés par ce péché rémanent. Tout au long de cette prédication, il est important de nous souvenir notre motivation première. Nous connaissons l'évangile libérateur de Jésus-Christ. Nous vivons donc le rôle de l'artisan de paix avec l'assurance de la réconciliation avec Dieu. Qui produit la réconciliation avec les autres? Nous avons toujours dans l'objectif ce texte de 2 Corinthiens 5, 18. Prenez vos Bibles, regardez dans 2 Corinthiens 5, 18 et 19. Où il est dit que toutes choses anciennes sont passées, les choses nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de réconciliation. Car Dieu, étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ayant cet objectif en tête, nous pouvons revenir dans Matthieu 7, 5 en abordant notre deuxième point. Matthieu 7, 5, hein, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Et de ce prochain point, nous allons chercher à débusquer les causeurs de conflits, les poutres ou ceux qui causent ces poutres dans nos vies et les mettre à la lumière afin de les éliminer de notre vie. Et le deuxième point s'intitule justement « Les conflits commencent dans le cœur ». Afin de retirer la poutre de notre œil, il faut savoir d'où vient cette poutre. Le texte de Matthieu 15, 19 nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Et ceci appliqué dans Jacques 4, les versets 1 à 3, souligne que les conflits viennent des passions non satisfaites dans nos cœurs. Lorsque nous voulons quelque chose et que nous sentons que nous serons satisfaits que lorsque nous l'aurons obtenu, ce désir commence en fait à nous contrôler. Et si les autres ne comblent pas cette attente, nous le condamnons souvent dans notre cœur et nous luttons encore plus fort pour recevoir ce que nous désirons. Ce désir, en fait, remplace Dieu. Ce n'est plus le désir de plaire à Dieu qui domine, mais la poursuite d'un désir personnel que l'on appelle une idole. Regardons ensemble comment une idole se fabrique dans notre cœur. Et nous allons voir 4 étapes dans ce processus de fabrication d'idole. Attention, ces 4 étapes ne sont pas chaque fois le processus d'une fabrication d'idole, mais ce sont des éléments qui font partie de cette fabrication. Et je vous les donne maintenant les 4, et ensuite on va les voir avec un exemple concret. La première étape, c'est « je désire ». La deuxième étape, « j'exige ». La troisième étape, « je juge ». Et la quatrième étape, « je punis ». Et là, on est dans une situation d'idole. Alors j'aimerais vous donner un exemple que Dieu m'a permis de comprendre un jour dans ma vie. Je vais vous expliquer les 4 étapes avec un exemple concret. J'ai un désir, c'est de ne jamais jeter de nourriture. Ce désir n'est pas mauvais en soi, on est d'accord. Avec mon épouse, nous désirons continuer à avoir cette notion qui est bonne. Mais je me suis rendu compte que ces désirs étaient beaucoup plus forts qu'un simple souhait et une manière de vivre. C'était une exigence ou une situation particulière. Je l'ai découvert lorsque j'ai dû jeter un jour un petit cornet que nous avions reçu. La nourriture était avariée. On ne savait pas en fait que ça ne se gardait pas en dehors du frigo. Jusque-là, le désir, l'exigence, dans ce domaine, ne pose pas de problème. On est d'accord. Tant qu'on n'en arrive pas au jugement. Mais le problème, c'est que je n'en suis pas resté là. J'ai jugé mon épouse et à ma honte, je dois dire que je l'ai critiquée et condamnée. Et dans mon jugement, je l'ai punie en lui disant des paroles blessantes. Vous savez, les idoles demandent toujours des sacrifices. Et là, j'ai donné les douleurs de ma femme à cette idole. J'ai utilisé l'épée de ma langue pour offrir ce sacrifice. Quand on commence à voir les choses comme ça, les idoles sont toujours terribles. Ils font mal. Alors je suis reconnaissant que Dieu m'a permis, m'a montré cette idole et que nous puissions ensemble emprunter le chemin de la réconciliation. Le Seigneur m'a fait la grâce d'enlever ma poutre et de demander pardon à mon épouse. Même si cette idole paraît petite, elle nous a pris du temps, de l'énergie. Imaginez, si une idole vous consume pendant des jours, des mois, des années, quelle perte d'énergie et de force. Une idole, c'est tout ce dont nous dépendons en dehors de Dieu pour être heureux, épanouis, rassurés. C'est quelque chose que nous aimons et poursuivons plus que Dieu. Et c'était le cas pour moi concernant la nourriture à ne pas jeter dans cette circonstance, qui était manifestée et qui prenait racine dans l'orgueil de dire « je ne veux pas être celui qui a une fois jeté quelque chose ». Et pour un instant, je dépendais plus de cela que de Dieu pour être heureux, épanoui et rassuré. Vous savez, on punit de différentes manières dans ces circonstances. Et une des punitions liées à une idole dans notre cœur, qui est souvent utilisée, est l'envoi de signaux subtils et désagréables pendant une longue période. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de punir, je ne suis pas en train de dire si vous vous rendez compte que quelqu'un est en train de vous punir. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de punir, c'est le moment de débusquer cette idole dans votre cœur. De chercher pourquoi. Quelle est cette idole qui me pousse à faire ce sacrifice? Commence à mieux comprendre ce texte, hein? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment enlever la paille de ton frère. Et lorsque nous trouvons cette idole, eh bien remplaçons cette idole par l'adoration du vrai Dieu. Quelqu'un disait une phrase intéressante, que le péché est ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas vraiment satisfait en Dieu. Nous ne pouvons prendre le temps maintenant de développer cette partie importante. C'est pourquoi je vous encourage à réfléchir sur votre vie avec Dieu. Est-ce que vous vous repentez régulièrement? Craignez-vous Dieu? Aimez-vous Dieu? L'Éternel est-il vos délices? Et afin d'ôter la poutre de notre œil, nous allons voir un dernier point très important. C'est la confession. Et le troisième point est intitulé « La confession libère ». Il est écrit dans Proverbe 28, que nous avons lu tout à l'heure d'ailleurs, « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. » Vous vous rappelez de 1 Jean 1,9. Nous trouvons de la compassion auprès de Dieu. Et la repentance est plus qu'une émotion. Elle implique un changement de cœur qui n'est possible que si nous comprenons que le péché est une offense personnelle envers Dieu. Une offense personnelle envers Dieu. Et dans ce cheminement, nous devons prendre notre responsabilité. Nous allons nous examiner et ne pas vivre la règle 40-60, connaissez la règle 40-60? Je vais vous l'expliquer. La règle 40-60, c'est dire, d'accord, je reconnais que j'ai une part dans ce problème. Je dirais 40%. Et l'autre, 60%. Comme il a 20% de plus que moi dans cette situation, c'est à lui de venir demander pardon en premier. Non. Même si 95% des torts est du côté de l'autre, je suis 100% responsable de mes 5%. Comprenez, vous avez compris l'idée du 40-60. Ne vivons pas cette règle 40-60. Elle est destructrice. Et il est fondamental de demander à Dieu de nous montrer clairement son péché et de réfléchir sur notre vie. J'aimerais vous donner simplement quelques questions de scanner qui nous aident à nous examiner. Ma langue est-elle une arme? Est-ce que je cherche à contrôler les autres? Et vous pouvez vous demander cette question, non pas forcément générale, mais sur une situation, hein, pour pouvoir ensuite progresser. Est-ce que je tiens parole? Est-ce que je respecte l'autorité? Est-ce que je vis la règle d'or de Matthieu 7,12? Connaissez cette règle d'or, hein? Faites aux autres ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous. Est-ce que j'agis poussé par un mauvais désir? Donc là, il faut aller rechercher dans son cœur. Qu'est-ce qui me pousse à agir? En même temps que Dieu ouvre les yeux sur le péché, parce que Dieu le fait lorsque nous le lui demandons. Mais en même temps qu'il ouvre les yeux sur le péché, il offre un chemin pour être libéré. Il offre un chemin pour être libéré de nos fautes, par la confession et ensuite le pardon qu'il nous offre en Jésus-Christ. Mais pour être libéré, il faut aussi apprendre à confesser ses fautes avec sincérité, sans condition. Les phrases telles que « Je suis désolé si je t'ai blessé » ou bien « Oublions cette histoire, on oublie » ou bien « Ouais, je pense que j'aurais pu faire mieux » ou bien « Je suppose que c'est pas de ta faute » En fait, toutes ces phrases n'amènent pas le pardon et la réconciliation. Si nous voulons vraiment faire la paix, demandons à Dieu la grâce de confesser avec humilité et sincérité nos fautes. Et j'aimerais vous donner un outil. C'est un outil. Vous en avez peut-être d'autres, c'est très bien, mais un outil pour apprendre à confesser selon ce que Dieu nous demande. Et c'est cet outil, on peut l'appeler les 7 A de la confession qui libère. Alors, on ne va pas forcément passer par ces 7 étapes à chaque fois. Mais il est bon de les avoir en tête, de les avoir dans nos cœurs, pour les saisir et voir justement que ces étapes soient vécues. Alors les 7 A. Le premier A, c'est aller vers chaque personne impliquée. Quand on a péché, on va vers chaque personne impliquée. Bien entendu, tout péché offense d'abord Dieu. Donc lorsque l'on pêche, il lui faut confesser nos péchés puisqu'il est impliqué. Un péché de cœur n'affecte pas directement les autres et ne doit pas être confessé ailleurs qu'auprès de Dieu. Si par contre ce péché de cœur implique des actions, ben là il y aura bien sûr à confesser. Par contre tout autre péché, donc qui implique d'autres personnes, il faut aller vers les personnes impliquées. Jacques 5,16 nous y encourage aussi vivement. Premier A, aller vers les personnes impliquées. Le deuxième A, je prends un tout petit peu plus de temps pour ce deuxième, c'est abandonner les si, mais, peut-être, etc. Abandonner les si, mais, peut-être. Une des confessions les plus courantes, et malheureusement, j'aimerais bien vous dire que je ne la dis plus, j'espère grandir par la grâce de Dieu, mais c'est cette confession, je suis désolé si j'ai fait quelque chose qui t'a énervé. Le mot si annule la confession, car vous ne savez pas ce que vous avez fait de mal. Voici le message donné, je vais vous donner le message codé maintenant derrière cette phrase. Hein. Voici le message donné par « Je suis désolé si je t'ai fait quelque chose qui t'a énervé ». Voilà le message. Il est clair que tu es énervé pour quelque chose. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, mais pour que tu arrêtes de me casser les pieds, je vais t'offrir cette demande de pardon. En plus, parce que je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait de mal, je ne sais pas vraiment ce que je devrais améliorer plus tard, ainsi, ne t'attends pas à ce que je change. C'est seulement une question de temps, afin que je ne refasse la même chose. Voilà le message codé qui est derrière. Je suis désolé si j'ai fait quelque chose qui t'a énervé. Donc, un outil, une aide, c'est d'enlever les si. C'est pas facile, vous verrez. Mais c'est important. Enlever les si. L'étape suivante de redresser avec douceur, ça vient plus tard. On est dans la partie confession. Ne mélangez pas les deux choses. Les mais ne sont pas mieux dans les confessions. Ce petit mot a une capacité étonnante de faire oublier ce qui avait été dit précédemment. Merveilleux. Je suis désolé d'avoir froissé tes émotions, mais tu m'as vraiment énervé. Ou bien, je sais que j'ai eu tort, mais toi aussi. Une confession avec un « mais » n'est pas un chemin efficace qui conduit à une réconciliation véritable. S'il a quelque chose à dire à l'autre personne, c'est une prochaine étape. Nous la verrons ensemble lors de la prochaine prédication. Mais d'abord, il faut enlever la poutre de ton œil et ensuite enlever la paille. Quand on le fait en même temps, ça ne va pas, on est aveugle. D'autres mots, le mot « peut-être » atténue aussi la confession. Ou les mots « il me semble que ». Il me semble que j'ai eu tort lorsque j'ai dit ces choses sur toi. Non, abandonnons les si, les mais, peut-être, il nous semble que, etc. Et disons, j'ai eu tort lorsque j'ai dit ces choses sur toi. Il faut avouer clairement, sans si, sans mais, sans peut-être. C'est difficile, je dois juste vous dire une anecdote. J'ai prêché sur ce sujet, et la semaine suivante, j'ai eu un téléphone avec une personne où je demandais pardon à cette personne pour une attitude. Et à la fin du téléphone, je lui dis, mais ça va pas. Il y avait plein de mais dans ce que je lui ai dit. J'ai dû retéléphoner pour demander réellement pardon. On a tellement envie de se justifier. Ne nous justifions pas, c'est Christ qui nous justifie. Parce qu'en faisant cela, en enlevant ces si mais peut-être, nous faisons pas face aux péchés sans les atténuer, sans les minimiser. Il ne faut pas minimiser ou atténuer les péchés. Il faut en fait augmenter notre foi dans l'œuvre de Christ, l'œuvre de compassion, l'œuvre de réconciliation, l'œuvre de pardon de Jésus-Christ. Des fois, on essaie de diminuer pour qu'il puisse pardonner. Mais non ! Le péché est péché. Il faut comprendre peut-être encore un peu plus la grâce et la compassion de Dieu. Je vous ai dit, j'ai pris un peu plus de temps sur ce deuxième A. Le premier, aller vers chaque personne impliquée. Le deuxième, abandonner les si, mais peut-être. Le troisième, avouer spécifiquement vos fautes. Être précis permet de savoir que nous devons changer dans un comportement. Par exemple, vous ne direz pas exactement cette phrase, c'est la notion qui est derrière. Mes critiques ne t'ont pas seulement blessé, mais elles ont aussi offensé Dieu. J'ai désobéi à son commandement de ne pas mépriser les autres. C'est très différent que simplement dire « je suis maladroit, excuse-moi ». Comme j'ai dit, la phrase, c'est après votre personnalité qui le dit. Mais c'est important cette notion, on ne minimise pas son propre péché. Mais on voit aussi la grâce de Dieu. Donc avouez spécifiquement vos fautes. Le quatrième A, admettez la blessure infligée. Comprendre que l'autre a été blessé. Puis même si on ne comprend pas, l'admettre simplement. On ne comprendra pas toujours. Est-ce que les gens comprennent quand vous êtes blessé? Pas forcément. Mais si la personne vous dit qu'elle l'est, simplement l'admettre. On peut dire « je comprends » ou « j'admets que tu as été blessé lorsque je ne suis pas venu à l'heure et que nous sommes arrivés en retard. Je te demande pardon de ne pas avoir tenu parole. » Voilà. Il est important de reconnaître qu'on a fait du mal à l'autre. Et je vous assure que quand on commence à comprendre et à reconnaître qu'on fait du mal, eh bien ça nous retient aussi de faire du mal. Si on ne se rend pas compte, on continue. Donc, admettez la blessure infligée. Le cinquième, acceptez les conséquences et les assumer. Si un bien a été endommagé ou volé, il faut le restituer ou le réparer. Ça fait partie de ce cheminement de confession. Et c'est d'ailleurs ce qui a rendu crédible la repentance de Zachée dans le Nouveau Testament. Zachée, s'il a juste dit « c'est bon, je demande pardon » et qu'il n'avait rien fait, c'était pas crédible. Il avait volé à un tas de personnes. Eh bien, il a rendu. Et cela rendait crédible sa repentance. Le sixième A, c'est améliorer votre comportement. Donc non seulement nous demandons pardon, mais nous allons chercher à l'améliorer. Et parfois, c'est vrai, je dois vous avouer que ben, c'est souvent dans le couple qu'on a le plus de choses à gérer, on est le plus proche. Mais je ne sais pas comment. J'ai l'impression de tout faire juste. Donc, je peux demander à mon épouse. Elle saura. On peut s'aider les uns les autres pour améliorer son comportement. Et le dernier A, qui est souvent en fait le premier que l'on fait, c'est appeler au pardon et laisser le temps. Demander à la personne de vous pardonner. Veux-tu me pardonner, s'il te plaît? Vous savez, on est toujours en train de dire, on ne demande même pas pardon, on dit, veux-tu me pardonner? Et il faut aussi laisser le temps pour que la personne puisse répondre, je te pardonne. Ben ça, c'est aussi important, cette étape-là. On la verra plus tard. Mais c'est aussi important. Mais il faut aussi laisser le temps. Si quelqu'un ne peut pas répondre tout de suite, faut pas mettre la pression. T'es chrétien, tu dois me pardonner, Dieu pardonne, tu pardonnes. Waouh. En plus, c'est pas faux, tout ce qui est dit là, mais... Non, ne cherchons pas à mettre la pression, mais prions Dieu de demander, de nous montrer qu'il a peut-être encore d'autres choses que nous avons oubliées aussi. Dans cette histoire. Et si la personne ne veut pas nous pardonner, sachez que Dieu vous a déjà pardonné. Alors que vous demandez pardon. Dieu vous a déjà pardonné. On peut déjà être tranquille dans ce sens-là. Et vous êtes appelé ensuite à prier pour la personne, pour qu'elle puisse sortir de cette prison du non-pardon. Rappelons-nous ces 7 A. Si jamais ils sont sur les petits documents qui était là à l'entrée, parce que c'est vrai que d'avoir tout ça d'un coup, c'est difficile, hein. Je comprends. Mais en même temps, c'est important d'avoir tous ces éléments en même temps. Donc le premier A, aller vers les personnes concernées. Le deuxième, abandonner les si, mais peut-être. Le troisième, avouer spécifiquement vos fautes. Le quatrième, admettez la blessure infligée. Le cinquième, accepter les conséquences et les assumer. Le sixième, améliorer votre comportement. Et le septième, appeler au pardon. N'hésitons pas à reméditer sur ces éléments. Se dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi, c'est vrai, pour avancer dans ce cheminement. Et pour conclure, une courte conclusion que j'aimerais simplement vous lire, l'engagement de l'artisan de paix dans ce deuxième R de retirer la poutre, qui dit ceci, donc ôter la poutre de son œil. Au lieu d'attaquer les autres, ou de s'arrêter sur leur tort. Nous assumons la responsabilité pour notre propre contribution au conflit. En confessant nos péchés, en demandant à Dieu de nous aider à changer toute attitude ou habitude qui mène au conflit, et en cherchant à réparer tout tort que nous avons causé. Et ceci, écoutez bien, c'est fondamental, parce que nous réalisons que Dieu fait miséricorde à celui qui se repent. C'est fondamental. Si vous n'avez pas cette notion de comprendre que Dieu fait miséricorde à celui qui se repent, comment allez-vous vivre la repentance? Comment allez-vous vivre la confession? Particulièrement si l'autre personne n'est pas forcément prête à la recevoir. Alors que si ceci est notre moteur et notre base, nous pourrons vivre Matthieu 7, 5 qui nous dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et tu verras ensuite comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Nous allons prier. Notre Père qui est dans les cieux et qui s'est révélé sur la terre par ton Fils Jésus-Christ, c'est bien humblement que nous venons devant toi ce matin lorsque nous sommes face à ces textes si profonds qui nous touchent dans notre vie quotidienne. Notre Seigneur, nous pourrions avoir un réflexe de fermer nos oreilles, parce que cela paraît difficile. Nous pourrions avoir un réflexe de nous dire que cela est bon, mais de l'oublier. Seigneur, j'aimerais te demander de nous aider à non seulement saisir ce que nous pouvons comprendre par ta parole, mais à le vivre petit à petit dans nos vies, avec ta force et par ta grâce. Seigneur, permet que notre motivation à vivre cette repentance et cette foi en toi ne soit pas motivée premièrement par le fait de gagner des personnes de nouveau réconciliées avec nous, mais que ce soit premièrement de le vivre parce que nous avons reçu la réconciliation de ta part. Oh, j'aimerais te prier que chacun ici puisse le saisir réellement dans sa vie. Que ceux qui l'ont saisi depuis de nombreuses années puissent tout à nouveau être renouvelés par cet évangile de Jésus-Christ. Que ceux qui l'ont découvert il y a peu puissent continuer à se réjouir. Et que ceux qui ne le connaissent pas encore, qui le savent théoriquement mais qui ne l'ont jamais saisi, puissent être saisis par ton esprit. Seigneur, nous sommes totalement dépendants de toi, où que nous soyons dans notre vie de foi. Et nous te remercions parce que dans cette dépendance, eh bien, tu nous permets de grandir, de t'aimer et de nous fortifier, nous encourager les uns les autres. Et j'aimerais te remercier pour l'Église dans laquelle où tu nous places, là où nous pouvons justement nous encourager, nous stimuler à saisir cette grâce afin que nous soyons capables d'entrer dans la confession et la repentance. Seigneur, sois loué et béni parce que non seulement tu nous donnes une direction, mais tu nous en donnes la force et la base. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.